France Culture.
Les nuits de France Culture.
Une guerre coloniale, une guerre lointaine, et pour finir, une guerre pour rien. C'est peu dire que la guerre d'Indochine fut mal comprise par l'opinion publique française, qui de fait s'en désintéressa jusqu'à son dénouement de la bataille de Dien Bien Phu en mai 1954. Mais les militaires, les administrateurs coloniaux et les responsables politiques, eux, s'étaient engagés pleinement dans ce conflit d'un autre temps qui suivait immédiatement la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être d'ailleurs cette proximité immédiate avec la victoire sur l'Allemagne nazie en Europe qui induisit en erreur les dirigeants de l'époque, soucieux d'abord de rétablir la souveraineté française dans ses colonies des confins. La guerre d'Indochine aurait-elle pu être évitée ? En décembre 1946, le déclenchement des hostilités est-il à mettre sur le compte de l'intransigeance française ou de celle du Viet Minh ? Ce sont les questions abordées dans cette émission, deuxième volet d'un programme de l'Histoire en direct par Patrice Gélinet sur le début de la guerre d'Indochine, une émission du 14 juin 1993.
L'histoire en direct.
Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776.
Bonsoir, la voix que vous venez d'entendre sur cette archive vietnamienne, c'est celle de Ho Chi Minh, le 2 septembre 1945. Ce jour-là, sur la place Ba Dinh à Hanoï, il proclamait l'indépendance du Vietnam devant des milliers de Vietnamiens dont aucun, sans doute, ne pouvait imaginer que ce jour-là, il faudrait encore 30 ans pour que cette indépendance devienne une réalité au terme de la guerre la plus longue du XXe siècle, d'abord contre la France, puis contre les États-Unis. Cette guerre, elle a commencé il y a donc près d'un demi-siècle, en décembre 1946. Dans le documentaire de l'Histoire en direct de lundi dernier, nous avons rappelé, à l'aide de témoignages et d'archives recueillies en France et au Vietnam, les principales étapes qui ont conduit à cette guerre. L'occupation japonaise au début des années 40, l'élimination de l'administration française en mars 45, la proclamation de l'indépendance du Vietnam en septembre, ce que vous venez d'entendre, le retour de l'armée française en octobre, et puis les accords du 6 mars 46, par lesquels la France reconnaissait l'autonomie du Vietnam mais refusait de parler d'indépendance, l'échec de la conférence de Fontainebleau, enfin le bombardement de Haiphong en novembre 46 et le soulèvement de Hanoï le 19 décembre, premier acte de cette première guerre d'Indochine qui devait durer plus de 7 ans et finir, comme on sait, par Dien Bien Phu et les accords de Genève en 54. Alors lundi dernier, nous avons tenté de rappeler comment a commencé cette guerre d'Indochine. Dans le débat de ce soir, nous demanderons plutôt pourquoi elle s'est déclenchée, qui en porte la responsabilité. Pour en parler, 5 invités, dont 3 ont été les témoins du début de cette guerre. Vous avez d'ailleurs pu les entendre dans le documentaire de lundi dernier. Il s'agit d'abord de Pierre Messmer, qui, bien avant d'être Premier ministre de Georges Pompidou, bien des années avant, fut parachuté sur le Tonkin en 1945 et capturé par le Viet Minh, dont vous avez été prisonnier, je crois, Pierre Messmer, pendant plusieurs semaines. Philippe de Villers, qui a vécu, lui, l'arrivée de la 2e division blindée en octobre 1945 avec Leclerc et qui a écrit depuis de très nombreux livres sur la guerre d'Indochine. Vous étiez, je crois, journaliste à l'époque, Philippe de Villers. Et puis Philippe Franchini, qui a vécu l'occupation japonaise, adolescent, et qui, bien plus tard a vécu aussi la guerre américaine du Vietnam et qui a d'ailleurs publié en 2 volumes un travail très complet, Les guerres d'Indochine, publié chez Pygmalion. Avec nous également l'ambassadeur de Follin, Jacques de Follin, qui est auteur d'un tout récent livre qui s'appelle Indochine 40-55, La fin d'un rêve, qui a été publié chez Perrin, et puis le général Gras, qui nous donnera le point de vue du militaire puisqu'il a participé à la guerre d'Indochine et qu'il est l'auteur d'une histoire de la guerre d'Indochine rééditée chez De Noël. Donc nous sommes en bonne compagnie pour parler du déclenchement de la guerre d'Indochine, de ses causes profondes et puis de ses causes immédiates. Alors commençons peut-être évidemment par la chronologie, c'est-à-dire par les causes profondes. Et nous avons entendu tout à l'heure la voix de Ho Chi Minh proclamer donc l'indépendance de son pays en septembre 1945. Il faut rappeler que cette idée d'indépendance, le nationalisme vietnamien, est très antérieur, même à la guerre, Deuxième Guerre mondiale qui a déclenché la guerre d'Indochine, antérieur aussi à Ho Chi Minh et même au Parti communiste indochinois. Comment se fait-il, Pierre Messmer, qu'au fond, ce soit les communistes qui aient incarné à un moment donné la lutte pour l'indépendance et qui aient conduit d'ailleurs cette lutte à son terme bien plus tard, en 1975. Pourquoi les communistes et non pas les autres nationalistes vietnamiens qui étaient, je crois, plus forts qu'eux dans les années 30?
Il faut dire que dans les années 30, l'histoire coloniale de l'Indochine a été émaillée d'un certain nombre de révoltes, dont la plus célèbre et celle de Yen Bai, qui était d'ailleurs une révolte provoquée par les communistes. J'indique au passage que les communistes à l'époque avaient comme principal argument de propagande, les communistes indochinois, le nationalisme, la revendication d'indépendance nationale. Et par conséquent, on est là si je peux dire, au lendemain de la capitulation japonaise, on est à l'aboutissement d'une revendication qui est exprimée depuis longtemps. Et j'ajoute que quand Ho Chi Minh déclare l'indépendance au début de septembre dans le discours dont vous venez de nous faire entendre une partie, mais l'indépendance existe déjà, car en réalité l'indépendance a été proclamée par les Japonais après leur coup de force contre l'administration française, le 9 mars 1945.
Exactement, par l'empereur Bao Dai.
Ce sont les Japonais qui ont proclamé l'indépendance le 11 mars au Vietnam, et je crois le 17 mars au Cambodge et le 22 mars au Laos, si je ne me trompe, et au profit des gouvernements protégés qui étaient déjà en place, c'est-à-dire de l'empereur Bao Dai pour le Tonkin et l'Annam, au profit naturellement du souverain du Cambodge et du souverain du Laos pour ces deux pays. Et j'ajoute que les Japonais ont même été jusqu'au bout de leur logique, parce que quelques jours avant leur capitulation, je crois que c'était le 14 août ou le 15 août 1945, les Japonais ont remis au Vietnam l'administration de la Cochinchine, qu'ils administraient eux-mêmes, puisque c'était une colonie française et que les Japonais l'avaient placée sous commandement militaire. Par conséquent, les Japonais ont fait véritablement, et pas seulement en Indochine, mais dans tout le sud-est asiatique, en particulier en Indonésie, en particulier en Malaisie, ont fait une politique de terre brûlée. Avant de capituler, ils ont proclamé partout l'indépendance. Par conséquent, pour les Vietnamiens, l'indépendance au moment de la capitulation japonaise est considérée comme un fait acquis. Et on peut dire que Ho Chi Minh s'engouffre simplement dans une porte ouverte.
Philippe Ranquini.
Oui, je voulais dire que à propos des Japonais, ça remonte très loin. Il faut partir de la victoire de Tsushima sur les Russes. Parce que à partir de ce moment-là, il y a une filière nationaliste qui se développe. Il faut dire que pourquoi il y a eu un nationalisme vietnamien qui n'a pas surgi comme ça une opération du Saint-Esprit, c'est que les Français sont arrivés d'abord dans un pays indépendant. Il y a eu d'abord une résistance venant des lettrés et en particulier de l'organisation monarchique.
On parle du 19e siècle, au début de la colonisation.
Et ça a été pris, ça a été relayé par un réformisme et ensuite un nationalisme qui puisait son aliment chez les Japonais et aussi chez les Chinois. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait tout un mouvement chinois qui, dans les années 20, prenait une couleur anti-occidentale assez prononcée. Mais les communistes sont arrivés ensuite parce qu'il y avait un environnement extrêmement favorable. D'abord, premièrement, il y a eu la révolution russe. Mais en plus de ça, au Vietnam même, il y a eu des concentrations urbaines. Il y a eu les retours de France, c'est-à-dire des Vietnamiens qui allaient étudier en France et qui revenaient. Il y a eu aussi le républicanisme, ce que j'appellerais le républicanisme, c'est-à-dire que la France a voulu constituer à la colonie une sorte de miroir républicain avec les principes de la Révolution française. Et les Vietnamiens, il y avait là la contradiction coloniale. Les Vietnamiens ont pensé retourner la chose.
Et qu'on leur apprenait, Victor Hugo, on leur apprenait au fond, effectivement, à s'affranchir de la France.
D'ailleurs, je crois que Daniel Emery a trouvé une expression, une micro-démocratie. Il faut dire qu'il y avait quelques élections qui n'étaient pas, c'était pas le suffrage universel. Mais il y avait cela. Et ensuite, il y a eu les grandes déceptions. D'abord, de la part des grandes déceptions des bourgeois vietnamiens et de toute une catégorie de Vietnamiens intellectuels et cultivés qui n'avaient pas la place qu'ils pensaient avoir.
Philippe de Villers.
Oui, pour faire suite à ce que vient de dire Philippe Franchini, je pense que le nationalisme vietnamien a des origines très anciennes et c'est donc une série de mutations qui le modernise. Mais les phénomènes les plus importants, justement, se passent dans les années 20. C'est qu'au lendemain de la guerre 14-18, dans le prestige de la France victorieuse, il y avait eu des promesses de réformes profondes et que les gouverneurs généraux qui ont commencé, comme Sarraut ou bien Varennes, à les mettre en œuvre, se sont fait complètement contrer par essentiellement les colons et l'administration. Si bien qu'il y a eu une déception très grande chez ces bourgeois du Sud et du Centre qui demandaient une constitution et des élections libres. Entre parenthèses, je dirais que pendant les 80 ans de la domination coloniale, il n'y a jamais eu d'élections libres en Indochine. Mais alors, la déception des années 26-27 a fait que les jeunes gens se sont lancés dans l'action clandestine, puisque c'était pratiquement la seule qui devenait possible, puisqu'aucun parti n'était autorisé. Et que deux partis sont entrés en concurrence, des nationalistes, disons, purs, qui imitaient les Chinois du Kuomintang, qui était donc ce qu'on appelle le VNQDD en français, et les autres, ce sont les communistes, qui ne s'appelaient pas encore communistes. Et il se trouve que les deux partis ont déclenché en 1930 des révoltes ou des mini-insurrections et que la répression a été absolument terrible. Si bien que le VNQDD a été littéralement liquidé en 1930, qu'une partie de ses cadres a pu s'enfuir en Chine et que les autres ont été capturés et mis dans les bagnes. Les communistes, eux, ont été aussi écrasés et mis dans les bagnes. Et qu'une des raisons, pour répondre à la question de Patrick Gélinet, c'est que dans les bagnes, les communistes ont fait l'éducation des nationalistes. Si bien que les bagnes ont été la grande université communiste d'Indochine, d'où pratiquement tous les nationalistes sont sortis en 45 communistes. Si bien que les communistes ayant été particulièrement rompus à l'action clandestine, c'est dès 1930-31, les communistes qui ont pris la direction du mouvement d'opposition à la domination coloniale. Mais ce qu'il faut bien marquer, c'est qu'à ce moment-là, ils ne sont pas tellement nationalistes. Les communistes demandent la révolution sociale, le renversement du pouvoir colonial, impérialiste, le renversement des bourgeois et les soviets ouvriers, paysans et soldats. Ce n'est qu'en 1939 qu'ils vont commencer à dire qu'il vaudrait peut-être mieux commencer à être nationaliste, et en 40-41, là, ils adoptent le principe de l'indépendance, mais ils n'en ont pas parlé avant 41.
En créant le Viet Minh et en rassemblant d'ailleurs derrière eux un certain nombre de nationalistes non communistes.
La direction est partie aux mains des communistes du fait de la clandestinité où ils ont été les maîtres.
Alors, je voulais vous poser une autre question. Donc, ce nationalisme est assez puissant, il a été assez durement réprimé dans les années 30 par la France, et lorsque arrivent les Japonais, vous l'avez dit, nous l'avons évoqué la semaine dernière, les Japonais poussent Baoda et les nationalistes non communistes à proclamer l'indépendance. C'est une chose acquise, d'autant plus facilement que l'administration française est éliminée en mars 1945, et c'est ce dont profite Ho Chi Minh pour proclamer l'indépendance. En septembre 1945, il n'y a pas un soldat français en Indochine, sauf dans les prisons, quand ils n'ont pas été massacrés. Alors, la France immédiatement à ce moment-là, ce n'est plus la même France, ce n'est plus la France de Vichy, c'est celle du général de Gaulle, et elle semble vouloir refuser cette indépendance, cette logique ou cette idée d'indépendance. Alors, avant que l'on voit les responsabilités des uns et des autres, de ces gouvernements, du général de Gaulle notamment, je voudrais savoir pour quelles raisons, au fond, la France, en 1945, est attachée à ce point à vouloir garder l'Indochine, à restaurer, comme le dit d'ailleurs l'ordre du général de Gaulle à l'amiral Thierry d'Argentlieu, nommé haut commissaire, à restaurer la souveraineté française. Pourquoi ne pas vouloir admettre, comme les Anglais l'ont fait ou sont en train de le faire dans leurs colonies, en Inde notamment, pourquoi ne pas vouloir admettre l'idée d'une indépendance du Vietnam, qui finalement, c'est l'idée qui sera à l'origine de la guerre. Jacques de Follin, oui.
Je crois qu'il faut, dans cette affaire d'indépendance et de l'opinion française en ce qui concerne l'indépendance, remonter à la conférence de Brazzaville sur l'Afrique de février 1944. Le général de Gaulle avait convoqué cette conférence pour discuter justement d'une libéralisation de la colonisation. Très rapidement, cette conférence a abouti à un programme qui n'était vraiment pas du tout libéral. Il disait que même le self-government, le gouvernement autonome, devait être proscrit et qu'il s'agissait simplement de faire un certain nombre de progrès dans quelques domaines.
Dans l'ensemble de l'Empire.
Hein, dans l'ensemble
de l'Empire et pas seulement de l'Indochine.
Donc l'idée d'indépendance n'existait pas du tout en France en ce qui concernait les pays coloniaux.
On dit souvent, je vous interromps, monsieur l'ambassadeur, mais on dit souvent que le général de Gaulle avait encouragé, admis l'idée d'une indépendance, ce qui est faux. À Brazzaville, il n'est pas question d'indépendance, effectivement, non. Des colonies qui s'appelleront l'Union française.
Hein. Non, je crois effectivement que le général de Gaulle pensait être libéral, mais qu'il était loin d'aller jusqu'à l'idée d'indépendance, incontestablement.
Le général Gras, là-dessus? Ou Pierre Messmer,
oui,
peut-être.
Mon général, allez-y.
Parce que
mon interprétation n'est pas tout à fait la même.
Oui. Ça ne m'étonne pas, monsieur le président.
Je crois qu'il y a une chose qu'il faut considérer, c'est qu'avant la guerre, le nationalisme n'était que le fait d'une élite intellectuelle relativement peu nombreuse. Et que les 80 à 85% de paysans qui vivaient dans les villages au milieu de la rizière se souciaient assez peu de politique. De sorte que les partis nationalistes purs et communistes, et il y avait une troisième catégorie qui était ceux qui voulaient une évolution vers l'indépendance avec la colonisation française, surtout en Cochinchine, ces partis nationalistes représentaient un certain nombre de chefs sans troupes, une espèce de tête sans corps. La masse paysanne est devenu nationaliste, a pris une conscience nationale à cause des événements de la Deuxième Guerre mondiale, la présence des Japonais, tous les événements de la Seconde Guerre mondiale. Et quand a éclaté, quand le Japon a capitulé et que le Viet Minh est entré au Tonkin, il était le seul et il a trouvé des troupes justement parmi les paysans dont la mentalité avait évolué pendant la guerre.
Mais pour quelles raisons, justement, la France refuse-t-elle cette idée d'indépendance qu'admet l'Angleterre dans son propre empire, Pierre Messmer? Est-ce qu'on a des intérêts économiques,
oui, mais,
par exemple?
En réalité, il faut pas bousculer l'histoire. Je rappelle que l'indépendance de l'Inde, ce n'est pas 1945.
C'est 47, mais la promesse de l'indépendance,
c'est... L'indépendance de l'Inde, c'est 1947. Non, mais l'idée, il faut bien voir que l'idée de tous les colonisateurs, de toutes les puissances coloniales pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que jusqu'à la fin de la guerre, il faut maintenir le statu quo où là où il a été bouleversé, c'est le cas en Extrême-Orient, c'est le cas en Birmanie pour les Anglais, en Malaisie, à Singapour, à Hong Kong, c'est le cas en Indochine pour les Français, c'est le cas en Indonésie pour les Hollandais. Commencer par rétablir le statu quo, c'est-à-dire le statu quo de la souveraineté. C'est ça l'idée, pas seulement des Français, c'est l'idée du général de Gaulle. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que il faut pas rechercher dans Brazzaville une théorie sur l'indépendance et en particulier sur l'indépendance de l'Indochine. Mais l'idée du général de Gaulle, qui s'exprime d'ailleurs dans les instructions qu'il donne à l'amiral d'Argenlieu au moment où celui-ci part pour l'Indochine, c'est de rétablir le statu quo ante. J'observe que c'est ce que vont faire les Anglais à Hong Kong et à Singapour et en Malaisie. C'est ce que vont essayer de faire les Hollandais en Indonésie. Mais après ça, dans un deuxième temps, justement, le problème va être de savoir si, ayant rétabli le statu quo ante, nous négocions avec les interlocuteurs que nous trouvons en face de nous pour aller à l'indépendance ou non. Et alors, il se passe ce que vous dites, c'est que dans ce deuxième temps, les Anglais, eux, vont négocier pour aller à l'indépendance très vite aux Indes et en Birmanie, un peu moins vite en Malaisie, pas du tout à Hong Kong, puisqu'ils y sont encore, et jusqu'en 1998. Les Français et les Hollandais, eux, vont essayer de s'accrocher assez maladroitement, comme l'histoire qui suit le démontre.
Oui, parce que...
Mais c'est le souci de rétablir le statu quo ante. Le général de Gaulle considère qu'il n'a pas le droit de ne pas rétablir partout la souveraineté française là où elle existait avant la guerre. Alors après ça, on peut négocier.
Parce que puisqu'on parle du général de Gaulle, justement, je voudrais demander à Jacques Defelin et à Philippe de Villers, notamment, la responsabilité du général de Gaulle qui quitte le pouvoir. Il faut le rappeler quand même en janvier 46, il était jusqu'à cette date chef du gouvernement provisoire, donc il n'était plus chef du gouvernement lorsque la guerre s'est déclenchée fin 46. Mais enfin, vous êtes assez dur dans votre livre, Jacques Defelin. Vous étiez également assez dur, Philippe de Villers, à l'époque du colloque Charles de Gaulle en 1990, De Gaulle en son siècle, c'était organisé par l'Institut Charles de Gaulle, et ça a été, d'ailleurs, les actes ont été publiés, c'était toute une série, il y a 9 volumes qui ont été publiés chez Plon. Et vous disiez à ce colloque Charles de Gaulle, Philippe de Villers, en parlant du général de Gaulle, il n'a jamais senti le moment où il fallait prononcer certains mots, ses discours en ce qui concerne l'Indochine n'ont cessé pendant 5 ans d'être inadaptés, et ses rares décisions se sont révélées vaines ou erronées. Vous êtes assez dur, donc, pour un homme qui, à bien des égards, a été aussi prophétique qu'à d'autres moment, et puis à accorder l'indépendance, enfin accorder, disons, à accepter l'idée de l'indépendance de l'Algérie et surtout celle de l'Afrique noire. Dans ce cas-là, pas du tout. Philippe de Villers.
Oui, moi je pense que, d'abord, le général de Gaulle a eu un dessein sur l'Indochine très tôt, dès 43 à Alger, et il a tout de même fait faire deux déclarations très importantes promettant, une fois la victoire obtenue, une grande autonomie à l'Indochine libérée. Et il s'est trouvé qu'en 1945, donc après la capitulation allemande, des contacts secrets ont été pris entre Paris, c'était M. Pleven qui était ministre des colonies, et les représentants français en Chine et en Inde. Et à ce moment-là, les instructions de M. Pleven ont été de contacter le Viet Minh, dont on savait qu'il organisait des maquis anti-japonais en Indochine, et de faire en sorte que la France s'engage à respecter la volonté des populations une fois la libération obtenue, et qu'il fallait obtenir une sorte d'accord préalable avant que les Japonais ne capitulent. Donc le général de Gaulle et M. Pleven ont encouragé disons des contacts d'une part avec des gens dont ils savaient qu'ils étaient communistes et qu'on savait qui était Ho Chi Minh dès ce moment-là, et on a donc dit il va falloir promettre des consultations électorales qui permettront, comme en France libérée, de voir ce que pensent les populations. Et le général de Gaulle était d'accord. Où moi je critique le général de Gaulle, c'est que premièrement, quand Bao Dai, à la capitulation japonaise, lui a lancé un appel émouvant pour lui dire « Mon général, vous avez vu l'enthousiasme d'une France libérée. Si vous voyez ici l'atmosphère dans un pays qui vient de proclamer son indépendance, vous ne chercheriez pas à rétablir par la force votre domination coloniale. Écoutez-nous, nous serons des amis si vous acceptez que nous ne soyons plus vos esclaves. » Et que de Gaulle, on croyait jusqu'à récemment qu'il n'avait pas reçu ce message. Or, j'ai trouvé, moi, dans les archives, que le message est parfaitement parvenu à Paris et retransmis au général de Gaulle à Washington, et qu'à ce moment-là, on le dit, Bao Dai est un collaborateur des Japonais, on laisse tomber. Bon, le résultat, c'est que M. Saint-Denis, qui est donc arrivé là-dessus, est resté sans instruction pendant des semaines et des semaines, alors qu'il était en passe de trouver un accord avec Ho Chi Minh, qui venait de prendre le pouvoir. Donc c'est là où je trouve que la responsabilité de de Gaulle, c'est qu'il a laissé passer des occasions uniques.
Jacques Defelin, c'est ce que vous dites aussi en substance dans votre livre.
Simplement, au sujet de ce qu'a dit M. Mesmer sur l'Angleterre. L'Angleterre, effectivement, n'a accordé l'indépendance aux Indes qu'en 47, mais dès 42, il y avait eu la mission Stafford-Cripps qui avait pratiquement dit que l'Inde serait indépendante. Et le gouvernement travailliste arrivant en 47 a tout de suite dit à l'Inde, en 45, vous serez indépendant. La deuxième chose, en ce qui concerne Philippe de Villiers, les contacts qu'a pris le général de Gaulle avec des gens en Indochine, il y a celui de, vous m'avez demandé de ne pas m'étendre là-dessus.
Mais
je le mentionne. Oui. Il y a celui de la mission Langlade qui a été envoyée par le général de Gaulle pour récupérer l'amiral de Coux.
Alors l'amiral de Coux, je vous interromps simplement pour rappeler que l'amiral de Coux était le gouverneur en Indochine, mais qu'il était pétainiste, en tout cas pendant la guerre, bien entendu, il était resté sous l'autorité du maréchal Pétain, et c'est peut-être une des raisons, effectivement, pour lesquelles le général de Gaulle n'a pas été très tendre avec lui lorsque, effectivement, les Japonais ont été battus.
Oui, c'est une raison, mais enfin, c'est un peu plus complexe que ça, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que le monsieur de Langlade a été envoyé pour récupérer de coups, et qu'il s'est reconnu dans les comités d'action par monsieur Pleven, par le Soustel, par le maréchal Juin, qui ont, à Paris, au retour de monsieur de Langlade, on dit c'est absolument inadmissible. Monsieur de Langlade a désobéi aux ordres du gouvernement français, alors qu'il était chargé de récupérer la de coup, il a au contraire saboté sa mission. Je ne m'étends pas là-dessus, c'est une affaire très compliquée, mais qui a un rôle très important dans la suite des événements.
Alors,
oui, je ne suis pas sûr que ça aurait
changé
beaucoup les choses, mais enfin, en effet, les choses se sont bien passées, comme vous le dites.
Parce que bon, il y a des auditeurs qui m'ont écrit et qui souhaitent un petit peu savoir aussi ce qui se passe en France, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe, de cette agitation qui précède la guerre au Vietnam en 45-46, mais on a le sentiment, m'écrit un auditeur, qu'il y a une très grande confusion du côté du gouvernement français. Au fond, si des hommes comme Langlade, comme plus tard l'amiral d'Argentlieu ou le général Leclerc ont joué un tel rôle en Indochine, c'est parce qu'à Paris, il n'y a aucun ordre qui venait, aucune politique bien précise qui venait de Paris. C'est vraiment le sentiment d'une très grande confusion. Que veulent ces gouvernements français, le gouvernement provisoire du général de Gaulle et les premiers gouvernements de la 4e République? Est-ce qu'ils ont une idée précise, au fond, de ce qu'ils souhaitent faire en Indochine? Pierre Messmer.
À mon avis, il y a une idée très précise jusqu'à la fin de la mission du général Leclerc en Indochine, c'est-à-dire, disons grosso modo, jusqu'au retour des forces françaises commandées par le général Leclerc au Tonkin et au Nord-Annam. Alors là, cette vision de la politique française, c'est, je le répète, de revenir dans l'ensemble de l'Indochine pour y faire reconnaître notre souveraineté, sans savoir d'ailleurs très exactement ce qu'on fera ensuite. Et deuxièmement, sur le terrain de la politique, c'est d'appliquer une fameuse déclaration, celle du 24 mars 1945, qui n'était pas bonne quant au fond, mais que l'amiral d'Argentlieu a toujours considéré comme la loi et les prophètes. Par conséquent, au point de vue de la politique et au point de vue de la stratégie militaire, les choses sont claires jusque environ au printemps 1945. Où tout commence à se compliquer, c'est quand la France étant revenue partout, il faut commencer à discuter avec nos interlocuteurs et en pratique avec le Viet Minh, et que les discussions, on ne sait plus très bien comment on va les mener.
Ces accords du 24, ces accords, pardon, cette déclaration du 24
mars
1945.
C'est une déclaration.
C'est une déclaration.
C'est quoi exactement?
C'est une déclaration, mais elle vient, si vous notez bien, après le 9 mars.
Oui, c'est une déclaration du gouvernement français.
Il y a beaucoup de dates dans ces événements. Le 9 mars 1945, il faut rappeler que c'est l'élimination.
15 jours après le 9 mars.
Voilà, c'est l'élimination de l'administration française par les Japonais, qui occupent encore l'Indochine et qui vont l'occuper d'ailleurs jusqu'à leur défaite. Et de France, le général de Gaulle donc fait cette déclaration.
Ah, c'est le gouvernement,
du 24 mars. Le gouvernement français, le général de Gaulle fait cette déclaration. Quel est son contenu? Puisque c'est ça qui va définir la politique française pendant plus d'un an.
C'est une déclaration qui est libérale. Et qui apparaît comme une déclaration libérale.
Je ne suis pas du tout d'accord. Si, j'étais à Calcutta à ce moment-là. J'ai tout de suite dit c'est une mauvaise déclaration parce qu'elle n'est pas assez libérale.
C'est une déclaration dépassée.
Ah voilà.
Ouais. C'est une déclaration dépassée. C'est une déclaration dépassée, mais le côté libéral par rapport à ce qui se passait, par rapport à l'amiral de Coux.
Oui, bon, voilà. Bon. Par rapport
les Japonais
au régime colonial,
alors, quel était son contenu toujours là.
Quel était son contenu? C'est ça que je posais comme question.
Les Japonais sont toujours là.
La déclaration est complètement dépassée.
Oui, elle est vague. Elle
était son contenu vague.
Ah, écoutez, le contenu...
Par rapport à l'indépendance...
Monsieur Deliver, vous
Philippe de Villers.
En quelques mots, elle dit que l'Indochine sera une fédération de 5 pays autonomes au sein de cette fédération elle-même autonome par rapport à la France. Alors, il y aura la Cochinchine, le Tonkin, la Nam, le Cambodge et le Laos. Et que chacun de ces pays aura un gouvernement avec une certaine autonomie. Que le pouvoir fédéral s'occupera pratiquement de tout, des douanes, des finances, du plan, de l'immigration, de la sûreté, de la navigation aérienne, etc. Autrement, et que la France, par conséquent, garde par l'échelon fédéral le contrôle des 5 pays à qui est reconnu ce qu'on appelle l'autonomie interne, c'est-à-dire qu'ils pourront s'occuper du génie rural, de l'enseignement primaire, d'un certain nombre de choses comme ça. Donc voilà. Et alors ça, comme a dit M. Mesmer, pour l'amiral d'Argentlieu, c'était exactement la position du gouvernement français, c'était la loi et les prophètes, et il fallait qu'il l'applique, et il l'a appliqué successivement au fur et à mesure qu'on revenait en Cochinchine, au Cambodge, au Laos, etc.
Mais là où vous dites, Philippe Franchini, que c'est une déclaration dépassée, de même que Pierre Mesmer, c'est parce qu'entre-temps, les Japonais avaient proclamé l'indépendance carrément du Vietnam. Donc nous, on parle d'autonomie, ce qui est un progrès par rapport à l'ancien empire, mais les Japonais avaient déjà dit aux Vietnamiens, vous êtes indépendants.
Oui, cette déclaration apparaît forcément aux Vietnamiens comme réactionnaire au sens étymologique du mot.
Le professeur Nguyen Coc Dinh, qui a été ministre des Affaires étrangères de Dien, et qui était tout à fait francophile, s'est élevé tout à fait contre cette déclaration.
Alors, quelles étaient, justement, les intentions du gouvernement français, sont quand même malgré tout assez confuses. Vous avez beaucoup évoqué Leclerc et d'Argentlieu. Alors, je rappelle que l'amiral d'Argentlieu a été nommé haut-commissaire en Indochine pendant l'été 1945. Il est arrivé à Saïgon au mois de novembre, je crois, 1945. Et puis, alors, il y a le général Leclerc qui, lui, était sous ses ordres et qui était commandant en chef là-bas. C'est lui qui a été chargé de reconquérir d'abord la Cochinchine, Chine, puis ensuite le sud du Vietnam, puis ensuite le nord, le Tonkin, et ce qu'il a pu faire à la suite des accords du 6 mars 1945 dont nous parlerons. Alors, ces deux hommes, qui sont à la tête, qui sont les plus hauts responsables français en Indochine, sont en parfait désaccord. Vous avez pu le constater vous-même, Pierre Mesmer, dans vos mémoires, vous rappelez comment, après avoir été libéré du Viet Minh, vous allez les voir l'un et l'autre, et vous
en
rendez compte...
Je n'ai pas été libéré.
Pas libéré, vous êtes évadé, pardon.
Je me suis évadé.
Vous seriez encore ?
Oh, bien possible.
Bon, vous vous êtes évadé, et vous allez voir l'un et l'autre. Alors, je voudrais qu'on sache tout de suite qu'ils ne sont pas du tout en accord, effectivement. D'Argentlieu, lui, c'est le respect total de la déclaration du 24 mars, c'est-à-dire l'autonomie. Et puis, Leclerc, lui, nous sommes au début de l'année 46, par un message au gouvernement français, montre que lui est prêt à admettre et considère qu'il faut admettre l'idée d'indépendance. Je vous propose d'écouter cette déclaration du général Leclerc, plutôt ce message du général Leclerc au gouvernement français, message secret bien entendu, dans lequel il parle d'indépendance.
Dernier renseignement à Hanoï, confirme Annamite de plus en plus près, soit cédé s'ils reçoivent satisfaction mot indépendance, soit se rejeter dans guerre du type résistance française qui peut durer plusieurs années. J'estime que la conjoncture actuelle est la plus favorable pour faire une déclaration dans ce sens. Les Annamites acceptent sous le mot indépendance ce que nous proposons sous le mot autonomie. En conclusion, j'estime que c'est exactement maintenant, avant le débarquement au Tonkin, le moment opportun pour déclaration gouvernementale précise et renfermant le mot « indépendance ».
Alors ça, c'était le 14 février 1946. Leclerc est sur le point, après avoir occupé la Cochinchine, le sud, de débarquer au Tonkin, et il est en train de négocier, ou plutôt Jean Saint-Denis est en train de négocier avec Ho Chi Minh un accord, les accords du 6 mars 1946, par lequel la France ne reconnaîtra que l'autonomie. On refuse cette idée d'indépendance que suggérait Leclerc, et c'est de là que vient le malentendu, ces accords du 6 mars 1945. Qu'est-ce qui pourrait m'en parler? Parce qu'ils sont... 46, pardon. Ils sont très importants, ces accords. Général Gras, peut-être.
Oui, c'est un peu des accords de circonstance. Il fallait que les accords soient signés rapidement pour que Leclerc puisse débarquer avec ses troupes à Haïphong. Alors, les accords accordé à la République démocratique du Vietnam,
c'est-à-dire Ho Chi Minh, oui,
à Ho Chi Minh, une indépendance et la présence des troupes françaises pendant une durée de 5 à 10 ans, minimum 5 ans, maximum 10 ans. Mais ce qu'on ne disait pas dans les accords, c'était l'essentiel, c'est-à-dire les limites territoriales de la République de la République démocratique du Vietnam, ni son, ses rapports avec l'Union française.
Donc un malentendu dès le départ. Hein. Philippe de Villers, vous n'avez pas d'accord à ce que venait de dire le général Gras, notamment oui. Indépendance, parce que ça ne figure pas le mot indépendance, ces accords.
Il y a un facteur très important qui a été complètement occulté depuis très longtemps ici, c'est que à la libération, enfin, l'Indochine a été répartie comme théâtre d'opération entre la Chine et l'Angleterre. Autrement dit, quand le général, l'amiral d'Argent lui a reçu l'ordre de rétablir la souveraineté française en Indochine, le problème, c'était de savoir, pour une durée indéterminée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient démobilisé les Japonais, les Anglais occuperont le sud de l'Indochine et les Chinois occuperont le nord. Bon, les Anglais se sont acquittés de leur tâche très vite, mais les Chinois se sont complètement incrustés. Et lorsque, justement, Leclerc a eu donc l'ordre, maintenant, vous allez débarquer au Tonkin, le sud est libéré, il faut débarquer au Tonkin. On a dit, mais les Chinois, l'armée chinoise y est, et les Chinois nous ont dit, si vous voulez débarquer en force, c'est la guerre avec nous. Autrement dit, il a fallu négocier avec la Chine, premièrement, une capitulation sur un certain nombre de droits que nous avions en Chine, et deuxièmement, consentir aux Chinois des avantages qui les mettaient sur le même pied que les Français en Indochine, et moyennant quoi, les Chinois nous ont dit, nous ne pouvons pas vous laisser débarquer comme ça, il faut d'abord que vous vous entendiez avec les Annamites, puisque c'est comme ça qu'on disait, sans ça, nous, on ne vous laisse pas débarquer. Parce que les Annamites vont se retourner contre nous. Donc, l'accord du 6 mars, il est absolument une nécessité totale et absolue. Si on veut débarquer sans faire la guerre à la Chine, soutenue par les Vietnamiens, il fallait signer cet accord. Alors, cet accord, il y a un mot qui est très important. Il ne reconnaît pas la République démocratique du Vietnam. Il reconnaît la République du Vietnam comme un État libre. Un État libre dans la Fédération indochinoise et dans l'Union française, ayant son gouvernement, son parlement, son armée, ses finances. Donc, ensuite, on va discuter pour savoir le statut des Français, l'Union française, etc., etc. Mais alors, ce qui reste ambigu, et là vous avez raison, c'est que pour les Vietnamiens, le Vietnam, c'est Tonkin, Annam, Cochinchine, et que pour nous, ce n'est seulement que le Tonkin et l'Annam. La Cochinchine, il est prévu qu'elle sera l'objet d'un référendum pour savoir si les gens veulent être ou non français ou vietnamiens.
Ce sont, je rappelle, les trois provinces du Vietnam.
C'est ça qui va être le point d'accrochage.
Jacques de Follin.
Au sujet de cette négociation et de l'importance du mot Vietnam qui a été substitué au mot « gouvernement de Hanoï » qu'avait proposé l'amiral d'Argentlieu, je voudrais simplement lire ce qu'a déclaré l'amiral d'Argentlieu quelques mois après dans un journal de Saïgon. « Vous savez qu'en traitant avec le gouvernement de Hanoï, nous avons usé, par courtoisie, du nom qu'il s'était unilatéralement donné. » Qu'est-ce que vient faire la courtoisie dans cette affaire ?
Ce qui montre bien d'ailleurs la volonté qu'avait l'amiral d'Argentlieu de ne pas au fond admettre l'idée d'un Vietnam. On parle d'Annamite, on parle de Cochin chinois, de Tonkinois, on refuse de parler de Vietnam, on refuse même l'idée donc qu'il puisse exister un Vietnam et on le traite au fond, on le reconnaît comme un État libre, c'est-à-dire autonome et pas indépendant. Et c'est là-dessus qu'ont buté les négociations, c'est là-dessus d'ailleurs qu'elles buteront quelques mois plus tard.
Elles ont buté essentiellement sur la Cochinchine, beaucoup plus que sur l'autonomie. Oui. C'est la Cochinchine, le point de discorde.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Dans les priorités de Kim In et des gens qui étaient autour de lui, ce qu'il appelait la réunification des trois qui, c'est-à-dire des trois provinces, passait avant l'indépendance. C'était sa priorité. La réunification était prioritaire par rapport à l'indépendance. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'avait pas l'indépendance comme objectif, mais considérait que la réunification de l'ensemble du Vietnam était prioritaire.
Ça, il faudra attendre 30 ans, il faudra attendre la chute de Saigon en 75, au fond, pour que ça se réalise.
Moi, je crois que l'accord était ambigu et imprécis. Et je voudrais simplement citer le gouverneur général Pignon, quelques mois après. Il est vraisemblable que si nous avions voulu la précision, un accord n'aurait pas été signé.
Voilà. Alors, la précision, je voudrais le rappeler, les choses devaient être précisées bien plus tard, à la conférence de Fontainebleau, quelques mois plus tard. Cette conférence, on en a parlé lundi dernier, a été un échec. Là encore, finalement, il n'en est rigoureusement rien sorti. En réalité, le gouvernement français traîne des pieds, ne veut y rien accorder, et c'est là que la situation se tend à l'extrême pour déboucher sur cette guerre, finalement, qui a attendu quelques mois pour se déclencher. En novembre-décembre 1946, c'est le bombardement de Haïphong par la flotte française, et puis c'est le coup de Hanoï en décembre qui déclenche cette guerre. Je voulais, avant qu'on aille un peu plus loin, que Emmanuel Laurentin, qui fait tous les jours la revue de presse de Culture Matin, nous rappelle la revue de presse qu'il a pu faire, nous donne la revue de presse qu'il a pu faire de la presse de française, donc de novembre 1946. Nous sommes, je crois, Emmanuel, au lendemain du coup de Haïphong. Il n'en est peut-être pas
à
question.
À peu près la même époque.
C'est en novembre 1946, ouais. Quelques jours avant le déclenchement de la guerre d'Indochine.
Voilà, oui, tout à fait. Lorsque l'on parcourt la presse, justement, de ce mois de novembre 1946, entre l'indépendance du Vietnam et sa guerre ouverte avec la France, on est frappé par la permanence, d'abord, de l'idée d'empire français. Tout ce qui existe d'évolué en Indochine est l'œuvre de la France, affirme ainsi le 15 novembre, dans une interview exclusive à l'Étoile, l'amiral Thierry d'Argentlieu dont on a parlé. Ce que confirme à sa façon Paris Presse, qui dans la grande lignée des soldats laboureurs du général Bugeaud, inscrit ses 120 gars de Leclerc, de la 2e DB, qui ont laissé l'épée pour la charrue en Indochine et qui ont compris que leur avenir d'agriculteur, était en Indochine, je cite, « terre française ». On parle un peu partout de reconquérir l'Indochine. Paris Matin accuse les Vietnamiens d'être encadrés par 250 anciens officiers de Rommel et par 25 000 Japonais. Et l'Aurore conteste ces autonomistes baroques, je cite, qui naissent un peu partout, en Côte d'Ivoire, comme à Madagascar. Bref, pour la presse de l'époque, l'Empire n'est pas prêt de mourir. Toute la presse, non. Comme l'opinion française, les journaux, nombreux au lendemain de la libération, sont séparés en deux groupes. Ceux qui parlent d'Empire, on vient de les citer, et les journaux de gauche qui, quand ils n'évoquent pas l'indépendance, comme l'Humanité, préfèrent le terme d'Union française. Des journaux de gauche qui comprennent, entre guillemets, les revendications vietnamiennes, comme le Populaire, le journal de Léon Blum, qui va bientôt prendre le pouvoir. Populaire qui se dit persuadé que le président Ho Chi Minh ne demande qu'un accord avec la France. Et comme Franc-Tireur qui critique sévèrement la faillite, je cite, de la politique indochinoise de l'amiral d'Argentlieu. Et c'est vrai que l'installation d'un gouvernement fantoche en Cochinchine, compliquée par le suicide de son président, le docteur Tin, ne facilite rien. Le Monde, par exemple, ne voit là que des rouages artificiellement représentatifs mis en place par la France dans la région. Et le Monde refuse tout de même au Vietnam le droit d'agir en maître sur la péninsule. Alors la guerre s'approche à grands pas. Tout le monde dans la presse le sent. Le Figaro, le 30 novembre, après justement Haïphong et Lang Son, propose deux chemins pour s'en sortir. Un chemin diplomatique, à condition que tous les partis de la coalition gouvernementale s'entendent sur un objectif. Et un chemin militaire qui coûtera cher, mais on le sent, le Figaro préfère ce chemin-là. Contrairement à Jacques Rebérol, du Parisien Libéré, commentateur éclairé, peut-être le plus éclairé de tous, qui ce même 30 novembre 1946... dénonce la parfaite mauvaise foi des deux côtés, vietnamiens et français, avant de prédire. Si nous continuons à ne pas choisir entre la voie des accords et la voie de la force, les incidents se répéteront, ils s'aggraveront. Un beau jour, nous nous trouverons dans une situation absolument sans issue, avec l'option d'évacuer totalement ou bien de faire un très gros effort militaire que nos moyens ne nous permettent pas. Il s'agira alors de liquider un maquis de 20 millions d'hommes et de femmes résolus. Et là, ce ne sera plus une expédition coloniale. 30 novembre 1946, Jacques Rebérol dans Le Parisien.
Jacques Rebérol, c'est trois semaines avant le déclenchement de la guerre, c'est assez prémonitoire.
Je dirais que j'étais correspondant du Monde à cette époque en Indochine jusqu'au 10 octobre, et qu'il y a tout de même quelque chose. Pourquoi l'échec de Fontainebleau? Je voudrais revenir là-dessus avant d'aborder Haïphong. C'est que, bon, étant donné que l'accord du 6 mars donnait automatiquement une négociation étendue sur les rapports franco-vietnamiens, Ho Chi Minh est donc venu en France, il y a eu la conférence de Fontainebleau. Cette conférence de Fontainebleau, on a mis toutes les cartes sur la table, et pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarde pas, on ne s'est pas bien mis d'accord sur un certain nombre de choses. Mais la principale, c'est que la Constitution était à ce moment-là en discussion à l'Assemblée nationale constituante, et qu'on a dit, on définit l'Union française, et il va y avoir des catégories comme les États associés. Et on a dit, bon, le fait qu'on n'ait pas encore terminé la Constitution fait qu'on ne peut pas valablement négocier avec les Vietnamiens. Donc, signons un modus vivendi limité. Alors on a signé ce modus vivendi qui est accepté qu'il y aurait une fédération de chinoises, union douanière, etc. Ensuite, on renégociera en janvier 1947, une fois que la France aura sa constitution. Autrement dit, moi, je dis, il n'y a pas eu véritablement échec de la conférence de Fontainebleau. Il y a eu ajournement avec un accord extrêmement partiel, mais qui prévoyait premièrement un cessez-le-feu, des libertés démocratiques en Cochinchine, etc. Autrement dit, on allait reprendre la négociation. Et ce qui est capital, c'est que l'amiral d'Argentlieu a estimé que ça, c'était la défaite de la France, qu'on allait se faire flouer, et qu'il fallait donc débarrasser le terrain de Ho Chi Minh avant qu'un gouvernement français reprenne des négociations, parce qu'autrement, il se ferait certainement
fleur. Ah oui, non, mais c'est ça. Philippe de Villers, ça c'est quand même. Oui. Bon, nous avons pu entendre, je vous propose d'ailleurs qu'on réécoute, on a pu entendre tout de même, la semaine dernière, dans quel esprit ce modus vivendi qui en fait n'est jamais que quelque chose pour ne pas revenir les mains vides de Fontainebleau. Dans quel esprit ce modus vivendi a été signé?
C'était l'union douanière, l'union monétaire, la restitution aux Français de tous leurs biens. C'était pas du tout négligeable.
Alors je vous propose simplement d'écouter, de réécouter dans quel esprit Georges Bidault parle de ce modus vivendi et évoque, il est chef du gouvernement français de l'époque, et il évoque en revanche avec mépris les accords du 6 mars passés avec Leclerc quelques mois plus tôt. Voilà comment il parle à la fois du modus vivendi et il commence par les accords du 6 mars. Ça, c'était juste après Fontainebleau.
Nous avons maintenu la présence française en Indochine. Et je veux le dire parce que c'est la vérité. D'où sommes-nous partis? D'un texte qui, en ne définissant pas suffisamment les organes fédérateurs, permettait à l'idée séparatrice de trouver sa place. Où sommes-nous arrivés? À un texte à la fois audacieux et sage, qui marque, d'une part, notre ferme désir de voir évoluer les territoires d'outre-mer vers une administration directe, et d'autre part, notre constant souci de maintenir le drapeau français sur les sols lointains.
Bon, ça c'est Georges Bidault juste
sur
après.
La Constitution.
Juste après Fontainebleau.
C'est la Constitution dont il parle.
Oui, mais maintenir le drapeau français sur les sols lointains, c'est le refus de l'indépendance du Vietnam.
Oui, mais je voudrais dire quelque chose. Nous venons d'entendre Georges Bidault. Dans un discours qui est évidemment aujourd'hui assez étrange à entendre, nous avons parlé de l'amiral d'Argentlieu, nous avons parlé du général de Gaulle, mais il faut savoir qu'à l'époque, en 1945, la totalité de l'opinion publique française, à de rarissimes exceptions près, était exactement de cet avis-là. Même les communistes soutenaient la déclaration
français,
du 24 mars dont j'ai parlé, en disant qu'elle était complètement dépassée, mais les communistes ont soutenu, avec tout le reste des gouvernements auxquels ils ont appartenu, cette déclaration que nous considérons comme complètement dépassée, jusqu'au mois de novembre 1945. C'est-à-dire qu'il y a une espèce... 46, excusez-moi. C'est-à-dire jusqu'à l'affaire d'Aifong, en réalité. C'est-à-dire
que
nous sommes en présence d'une opinion française quasiment unanime. Il ne faut pas se mettre à dire « c'est de la faute de celui-ci, c'est la faute de celui-là ». En réalité, il y avait une opinion française quasiment unanime, et aveugle d'ailleurs, dans sa majorité.
Oui, les communistes, c'est important. Il faut savoir qu'ils sont restés au gouvernement jusqu'en 1947, jusqu'en mai 1947. Donc, c'est-à-dire après le début de la guerre d'Indochine. Là-dessus, général Gras.
Oui, et puis il faut dire qu'en France, après la libération, nous avons eu des gouvernements tripartites qui, après le départ du général de Gaulle, ont continué sa politique qui était la déclaration du 24 mars. Comme les trois partis socialistes, MRP et communistes n'étaient pas tout à fait d'accord sur la politique indochinoise, ils se raccrochaient à la déclaration du 24 mars et ne cherchaient pas à faire une nouvelle politique. Et ils ont continué à s'accrocher à cette déclaration jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'il fallait vraiment faire autre chose.
Jusqu'en mars 46.
Emmanuel, vous vouliez intervenir?
Oui, simplement pour dire que la presse de l'époque tient énormément compte justement de ces problèmes purement politiques, on pourrait dire, qui président à la résolution ou non des accords sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'articles justement sur la faute à ces gouvernements tripartites, la présence ou non des communistes à certaines des réunions du comité d'Indochine, etc.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement... Jacques de Follin, oui?
Je ne suis pas du tout d'accord avec Philippe de Villers sur l'interprétation du modus vivendi. Ce modus vivendi, effectivement, promettait de régler beaucoup de questions, mais il promettait en principe. Il devait confier le règlement de ces questions à des commissions qui n'ont jamais été réunies. D'autre part, il y avait un article 9 qui était extrêmement dangereux, compte tenu des positions de la France, qui prévoyait la présence en Cochinchine d'un observateur chargé de vérifier le cessez-le-feu. C'était une manière de s'infiltrer dans la Cochinchine pour Ho Chi Minh. Voilà.
Sur la conférence de Fontainebleau, et je peux le dire puisque j'ai été un des représentants du gouvernement, j'appartenais à la délégation française à la conférence de Fontainebleau, l'impression de tout le monde à la fin de la conférence, aussi bien du côté du vietnamien que du côté de français, c'est que c'était un échec. Et que le modus vivendi était une sorte de rattrapage. C'était l'impression de tous les Vietnamiens et de tous les Français.
Alors dans la rue de presse d'Emmanuel Laurentin, également, certains journaux ont évoqué la responsabilité partagée des Français et des Vietnamiens, c'est-à-dire du Viet Minh, du gouvernement Ho Chi Minh. Je voulais savoir quelle était la responsabilité, justement, de Ho Chi Minh, du Viet Minh, dans le déclenchement de la guerre. On a entendu dans le documentaire de la semaine dernière, Pham Van Dong ou Giap nous dire que, effectivement, Ho Chi Minh voulait la paix. Est-ce bien réel? Est-ce que Ho Chi Minh voulait la paix? C'est pas ce que vous semblez dire, Jacques de Follin, dans votre livre, notamment.
Non. Ce que je veux dire, c'est que les accords du 6 mars avaient pour but, en principe, de restaurer l'autorité française au Nord. Mais le Nord, déjà, au début de 1946, était dans les mains complètes d'Ho Chi Minh, qui faisait tout ce qu'il voulait, qui avait un gouvernement, une armée, ses finances, etc. C'était pratiquement un pays indépendant. Comment voulait-on y rétablir l'autorité française? D'autre part, il y avait ce problème des limitations, des déplacements de l'armée française, qui était mise dans un carcan qui ne pouvait aller nulle part. Chaque fois qu'elle allait quelque part sans l'autorisation, elle était attaquée. Il y avait des embuscades vietnamiennes de tous les côtés. La vie était impossible pour les militaires français. Ils étaient impuissants. Et à mon avis, vouloir rétablir l'autorité française au Tonkin était un leurre et un mirage.
Oh, la responsabilité du Viet Minh est très sérieuse dans le déclenchement de cette guerre. Il ne faut pas oublier que pendant la conférence de Fontainebleau, Ho Chi Minh est bien à Paris, mais Vo Nguyen Giap, lui, est resté à Hanoï, et pendant la conférence de Fontainebleau, Vo Nguyen Giap, avec, j'en suis sûr, l'accord de Ho Chi Minh, élimine la totalité des nationalistes, des cadres nationalistes vietnamiens, soit en les massacrant, soit en les obligeant à trouver refuge en Chine. C'est-à-dire que, pendant la conférence de Fontainebleau, Giap s'efforce de bétonner la situation intérieure du Tonkin, et il bétonne pourquoi ? Dans la perspective d'un affrontement avec les Français, c'est évident.
Qui, à l'époque, paraît inéluctable. Philippe Franchini, vous n'êtes pas intervenu beaucoup
sur ce sujet. Parce qu'il est très difficile de parler du côté vietnamien, parce qu'on ne sait pas énormément de choses. Je dirais que du côté des Vietnamiens, ils n'avaient aucune confiance dans les Français. Parce qu'on a toujours parlé de la duplicité de Ho Chi Minh, on a toujours parlé de la duplicité des communistes des nationalistes vietnamiens. Mais en fait, quand c'est vu du côté vietnamien, on se demande vraiment ce que voulaient les Français. Surtout, il y avait une chose assez terrible, enfin, à mon avis, c'est que, par exemple, ce sont des choses peut-être très ordinaires, mais quand les Vietnamiens ont vu arriver l'amiral Thierry d'Argentlieu, ils ont trouvé qu'il ressemblait beaucoup à l'amiral De Cou et qu'il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Et de toute façon, les Vietnamiens n'avaient pas du tout la même conception de la lutte. D'abord, les communistes avaient un problème de pouvoir, comme l'a dit M. Mesmer tout à l'heure. Ils avaient un problème de pouvoir. Ils voulaient le pouvoir, ils ont donc éliminé les nationalistes, mais il y avait aussi autre chose, c'est qu'ils n'ont pas la même conception, ils n'avaient pas la même conception de la lutte. Pour eux, elle était totale. Ils ne se sentaient pas en position de force, mais moi je crois que le voyage en France a donné certainement à Ho Chi Minh certaines idées de faiblesse de l'adversaire. Et reste à savoir dans quelle mesure est sa responsabilité au sein du parti.
Bon, ce qui n'a pas donc empêché, bien au contraire, le déclenchement de la guerre en décembre 1946. Je voulais tous vous demander brièvement, il nous reste à peine quelques minutes, Général Gras, peut-être je vais vous poser la question parce que vous vouliez intervenir, mais aujourd'hui, 47 ans après, que vous inspire au fond ces événements dont nous venons de parler, cette genèse très compliquée de la guerre d'Indochine? Est-ce que c'est une bêtise énorme? Et quelles sont les conséquences au fond de ce dont nous venons de parler? Car elles sont évidemment considérables, y compris pour l'avenir. Vous avez vous-même, et vous étiez même vous-même présent en 1975, en avril 1975, lors de la chute de Saïgon, ce qui commençait là en décembre 1945, c'était 30 ans d'une guerre terrible que vous avez vécue, si je puis dire, des deux guerres que vous avez vécues, Yves Gras. Aujourd'hui, c'est quoi, le sentiment d'un gâchis?
Oui, c'est le sentiment d'un gâchis, mais un gâchis dont le Viet Minh est responsable.
Essentiellement.
Essentiellement responsable, parce que, d'abord, premièrement, la guerre n'a pas commencé en décembre 1946. Il ne faut pas oublier qu'à partir du mois de septembre 1945, il y avait la guerre en Cochinchine et que nous avons eu quelque chose comme une demi-promotion de Saint-Cyrien tuée dans l'année 1945. Et que pendant la conférence de Fontainebleau, la guerre n'a pas cessé en Cochinchine. Il y a eu quelques accrochages au Tonkin, à Bac Ninh et puis près de la baie d'Along, mais la guerre n'a pas cessé. Elle a cessé quelque temps quand on a appliqué le modus vivendi, parce que le Viet Minh voulait montrer que c'était lui qui tenait les guérilleros du Sud.
En deux mots, un gâchis, donc une erreur.
C'était une erreur, bien sûr. D'abord, c'était une erreur parce qu'il n'y avait pas de politique définie.
Voilà.
Alors, quand il n'y a pas de politique, il ne peut pas y avoir de stratégie.
Jacques de Follin.
Moi, je voudrais simplement rectifier un point.
Vos conseils, parce qu'il nous reste 3-4 minutes, pour conclure.
Qui me paraît important, simplement les déclarations de Raphaël Legge dans le documentaire. Il prétend qu'il y a eu 6 000 morts, 12 000 morts, et 12 000 morts qu'il a lui-même constaté. Moi, j'ai un camarade de promotion.
C'est l'amiral Batet qui l'a
J'ai un camarade
constaté.
De promotion qui était à bord.
C'est l'amiral Batet qui commandait la flotte, justement.
L'amiral Batet n'était pas là.
Non, il n'était pas là.
L'amiral Batet n'était pas là.
L'amiral Batet n'a jamais été
là. Mais les chiffres viennent de son état-major.
Oui, mais
6 000 morts.
Permettez-moi de vous dire que j'ai un camarade de promotion qui était là à bord des deux avisos, qui lui allait à terre le lendemain et qui a trouvé qu'il y avait au maximum 300 morts, ce qui correspond à ce que dit le général Fonde. Et Raphaël Legge n'était pas là, il était arrivé dans la région, même pas à Haïphong, que bien après.
Bon, je voulais des considérations générales, je n'arrive pas à en obtenir de votre part. Philippe de Villers, vous avez beaucoup écrit, vous êtes beaucoup intéressé à cette affaire d'Indochine. Un mot pour conclure.
Moi, je pense que c'est une erreur absolument capitale et fondamentale qui a eu des conséquences effarantes, parce qu'il y a notre guerre du Vietnam, avec le nombre de morts tués vietnamiens et français, etc., la guerre américaine y fait suite directement, donc c'est 30 ans de guerre. Je pense que, premièrement, c'était une erreur capitale, qu'elle pouvait parfaitement être évitée, et que, justement, ce qui est très important, c'est de savoir l'échelonnement des événements. Moi, j'ai fait une recherche à la suite de ce que le général Gras a écrit dans son livre. Quelles ont été les instructions données par l'amiral d'Argenlieu à son départ pour Paris? L'amiral d'Argenlieu a cru pouvoir réussir un coup d'État, se débarrasser d'Ho Chi Minh en 6 semaines. Et là, M. Mesmer se rappellera, car le 14 décembre, on est venu demander à Paris le feu vert pour le coup d'État et on l'a refusé. M. Mesmer a dit « Vous êtes fous ». Eh bien, ce coup d'État manqué a fait que la guerre a donc pris. Donc c'est une erreur, et c'est dans l'histoire française une des choses absolument fondamentales qui a orienté toute l'histoire de la 4e République.
Je ne suis pas du tout d'accord avec M. De Villers.
Ah ben écoutez, c'est un autre débat. Philippe Franchini, je voulais également avoir votre point de vue là-dessus avant de passer la parole à Pierre Mesmer.
Non, je me pose une question. Pourquoi les Français n'ont pas réussi à faire constituer une classe sociale vietnamienne issue du peuple colonial qui ait pu contrebalancer les révolutionnaires communistes? C'est une question qui est très importante, cela.
Il y a eu des tentatives, il y a eu la solution Bao Dai quand même,
c'était trop tard.
Oui.
Bon, dans l'histoire d'Haïphong,
Yves Gras, on n'a pas le temps. Yves Gras, vraiment, Pierre Mesmer, si vous pouviez conclure. Vraiment, on est au bout de l'émission. Pierre Mesmer, inspire ces événements que vous avez vécu et dont on vient de parler?
Je pense que c'est une guerre qui aurait pu être évitée. Je le crois vraiment.
En écoutant qui? Leclerc, notamment, je suppose.
Ah, je crois qu'il fallait faire une autre politique et, en effet, il valait mieux écouter le général Leclerc.
De l'amertume du
ah non, c'est pas, parce que vous avez participé à ces événements. Il ne sert à rien de vouloir refaire l'histoire, mais il peut être utile de savoir qu'il y a des guerres qui ne sont pas inévitables et la guerre d'Indochine appartenait à la catégorie des guerres qu'on pouvait éviter.
Bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je voulais d'ailleurs mentionner un certain nombre de livres de mes invités. Pour les autres, j'en ai utilisé beaucoup pour ces deux émissions. Je vous recommande de, par Minitel d'appeler le 3615 code France Culture. Vous aurez toute la liste des livres qui m'ont été utiles pour cette émission. Je voulais simplement mentionner celle de mes invités. Les mémoires de Pierre Messmer, après tant de batailles. C'est paru chez Albin Michel. Vous consacrez deux chapitres à ce que vous avez vécu là, mais vous avez aussi vécu des tas d'autres choses. Pierre Messmer, d'ailleurs, c'est pas la première fois que vous venez à l'histoire en direct. Vous étiez à Birakeim, vous étiez à Dakar, sans parler, bien sûr, de votre carrière politique. De Jacques de Follin, Indochine 40-55, La fin d'un rêve, paru chez Perrin. Paris, Saigon, Hanoï, Les archives de la guerre 44-47, présenté par Philippe de Villers chez Gallimard Julliard. Du général Gras, la réédition de l'histoire de la guerre d'Indochine, réédité donc chez De Noël. Enfin, trois ouvrages de Philippe Franchini, Les guerres d'Indochine, paru en deux volumes aux éditions Pygmalion. Saigon, 1925-1945, chez Autrement, c'est tout le Saigon d'avant la guerre, justement. Et puis un livre autobiographique, Métis, chez Jacques Berthoin. Je rappelle, Philippe Franchini, que vous êtes de père corse, mais de mère vietnamienne. C'était l'Histoire en direct, à la technique ce soir Henri Bérec, Philippe Bredin, Jean-Michel Godin et la collaboration de Rebecca de Nantes et de Guy Peramore, Relations extérieures Frédéric François. C'était l'Histoire en direct, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Christine Bernard-Sugy.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 juin 1993.